Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur France Bleu pour On se dit tout, votre émission de confidence. C'est clair, on choisit un thème chaque jour et chaque jour, vous venez nous raconter votre expérience par rapport à ce thème. Écoutez, vous allez vite, très vite même comprendre de quoi on va parler.
Un jardin naturel, ça va se définir d'abord par ce qu'on évite de faire. Et on va donc éviter d'employer tout ce qui est pesticides, tout ce qui est désherbant, évidemment. Mais aussi les produits fongicides, de traitement, on va éviter totalement.
Un jardinier amateur extrait d'un reportage de TV Vendée pour parler, je vous le donne en mille, de jardinage. Mais jardiner au naturel, c'est important. Sans pesticides, sans désherbants, à l'écoute de la nature et des insectes nécessaires au jardin. Vous le faites peut-être parce que vous êtes militant et vous savez depuis longtemps que les pesticides sont mauvais, dangereux pour la santé. Vous le faites parce que le jardin, c'est votre passion et que vous préférez y passer plus de temps. Vous le faites par conviction parce que c'est comme ça qu'on vous a toujours appris. C'est une émission un peu engagée, hein, on va pas se le cacher, avec vous qui avez dit stop aux pesticides dans votre jardin, mais peut-être aussi à plus grande échelle si vous avez une exploitation. À l'heure où les députés n'ont pas l'air bien préoccupés par le glyphosate, venez nous rejoindre, vous, au 0810 055 056. On se dit tout avec notre grand témoin, Christophe Gatineau, auteur du blog Jardin Vivant et surtout auteur du livre Éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Bonjour Christophe.
Bonjour.
C'est un livre engagé et pourtant quand on lit le titre, on se dit « Oh, c'est un livre rigolo sur l'éloge du ver de terre ».
Mais c'est un livre rigolo en fait.
Et engagé.
Vous avez ri, j'espère.
J'ai ri beaucoup, oui, oui. Parce que c'est un petit ver de terre qui se raconte et qui explique à quel point il est important aujourd'hui pour la terre.
Oui, c'est un ver de terre qui est un petit peu en colère hein, par rapport à ce qu'il subit. Hein. Voilà, donc c'est comment dire, le ver de terre, c'est le premier auxiliaire du jardinier et de l'agriculteur. Et puis, il est en voie de disparition. Donc, je lance une forme de cri en fait. J'interpelle. Je viens d'entendre aux informations, aux infos il y a quelques minutes, qu'on réintroduisait deux ours dans les Pyrénées. L'État investit beaucoup pour réintroduire les ours, beaucoup pour réhabiliter le loup. On investit des millions d'euros et pas un centime pour réhabiliter le ver de terre dans le modèle agricole. Alors j'agis.
Eh ben, on va en parler avec vous, bien sûr, Christophe, mais avec vous qui nous écoutez également. Vous avez décidé de jardiner au naturel. C'est votre histoire. Venez nous rejoindre.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Votre jardin est vivant, il suffit de le regarder peut-être d'un peu plus près. Il y a des légumes, des plantes, des fleurs, mais aussi des animaux, genre le ver de terre. Il est au cœur de nos discussions avec le livre de notre grand témoin, Christophe Gatineau, Éloge du ver de terre, un livre engagé pour prendre conscience de l'équilibre fragile de la terre si on n'y fait pas attention. Et y faire attention, c'est peut-être ce que vous faites, vous qui avez dit stop aux produits phytosanitaires, le glyphosate dont on parle beaucoup en ce moment, qui pollue les sols, mais également ce qui pousse dans les sols et tout ce qui se trouve dans les parages, ça veut dire nous, hein, et puis les agriculteurs sont d'ailleurs les premiers concernés, les riverains aussi. C'est le moment d'en parler avec vous qui êtes militants, engagés, qui avez dit stop à votre petit niveau dans votre jardin, mais peut-être aussi sur votre exploitation. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec notre grand témoin aujourd'hui, puis vos appels aussi, c'est important. Je croyais qu'on avait quelqu'un, mais qui est reparti peut-être au jardin, justement. Si, Pascal est avec nous en Haute-Saône. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va et vous, Pascal?
Ben, ça va,
super. Bien.
J'ai écouté votre thème là et donc je suis intéressé en fait.
Et vous avez dit, oh là là, ça c'est pour moi aujourd'hui.
Bien sûr, oui.
Vous êtes jardinier amateur?
Bah oui, écoutez, moi j'ai 58 ans, j'ai toujours fait du potager depuis mes grands-parents en fait. Et bon, si vous voulez, quand on réfléchit, on n'a rien inventé parce que ça vient de plusieurs générations. Hein.
Alors quand vous dites vous n'utilisez aucun produit dans votre potager, rien du tout.
Rien du tout et en fait, il faut savoir qu'on critique beaucoup le monde agricole pour les produits pesticides, mais les particuliers, je pense qu'ils ont largement aussi leur part. Et par rapport aux paysans, en plus les particuliers, ils dosent très mal et c'est encore pire en fait. Hein. Donc voilà, de toute façon, il faut savoir que dans les magasins, il y a des stands énormes de produits divers et peut-être que les gens se laissent tenter.
Et quand vous dites que vous n'utilisez rien, rassurez-nous, votre jardin va bien, Pascal?
Ah oui, mais
ah, bah voilà.
Bien sûr, il faut savoir que de toute façon, la nature est bien faite. Hein. Moi, quand je commence le potager au printemps, je laisse tout pousser. Bon, je fais mes semis, mes plantations, et je laisse tout pousser. Il n'y a pas de mauvaises herbes, ça n'existe pas, en fait, dans le jardin. Toutes les herbes ont des avantages. c'est-à-dire qu'elles peuvent attirer des insectes. Moi, je laisse pousser, par exemple, que j'ai des orties dans un coin du jardin, je laisse pousser, ça attire les pucerons, et pendant que les pucerons vont sur les orties, ben, ils vont pas ailleurs.
Il a tout compris, Pascal, finalement.
Il a compris beaucoup de choses, en fait. Il a compris, en tout cas, qu'en fait, les pesticides n'avaient rien à faire dans un jardin. Je veux dire qu'aujourd'hui, au niveau du jardin, nous, on a un jardin, ce qu'on appelle vivrier, hein. C'est-à-dire, on pratique ce qu'on appelle l'agriculture vivrière, c'est-à-dire, on cultive sur 2000 mètres carrés, hein. Bon. Dans un jardin, un agriculteur n'est pas confronté au même problème. Il doit gérer des hectares et parfois il fait appel aux pesticides quand il n'a pas d'autres solutions. En fait, faut pas juger trop vite. Mais dans un jardin, les pesticides n'ont rien à faire. Si on a une attaque, par exemple, de pyrite du chou. Pyrite du chou, c'est une chenille qui va manger les choux.
Les choux, oui, comme je m'en doutais.
Et en quelques jours peut manger tous vos choux, en fait. Hein. Ça c'est clair. Si vous avez 15-20 choux, vous ramassez les chenilles à la main. Au mieux, vous allez les jeter sur les choux de votre voisin, ou non, voilà, vous en faites ce que vous voulez, en fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut gérer les problèmes, anticiper les problèmes dans un jardin. Dès qu'on augmente les surfaces, c'est un peu plus compliqué.
C'est un petit peu comme le corps humain et les médicaments, finalement. Il y a des gens qui se dopent à fond pour pas être malades et qui sont peut-être plus malades, au final, que ceux qui ne prennent rien du tout.
Bien entendu, bien entendu. Donc, au niveau d'un jardin, c'est très facile de nourrir le sol qui va ensuite nourrir la vie du sol va ensuite nourrir les plantes, en fait. Bon, en agriculture, les problèmes sont très très différents, hein, voilà. Est-ce que l'auditeur est toujours en ligne?
Mais bien sûr, il est avec nous, Pascal. Voilà.
Et comment vous nourrissez la vie de votre sol? Comment vous nourrissez vos vers de terre, par exemple?
Bah écoutez, moi je pratique aussi pas mal le paillage, hein, donc ça empêche, ça évite surtout de mettre plein d'eau pour rien. Déjà ça fait une protection et ça suffit pour la vie du sol, quoi.
Quand vous dites nourrir le ver de terre, faut donner à manger aux petits
vers de
terre.
Oui, faut donner à manger
aux vers
de terre.
Le
ver de terre, en fait, il se nourrit de petites plantes. Il adore les plantules. Il adore les crucifères. Il adore l'oignon. Il adore les herbes fraîches. Ce qu'il aime dans les plantules qui sont au stade dicotylédon, c'est qu'elles sont très riches en azote. Il adore l'azote, en fait. Et puis il aime pas trop la paille. Il aime pas trop les paillages. Le ver de terre, en fait, souvent il va attendre que les champignons décomposent la lignine et ensuite il va consommer. Mais la paille, d'où vient votre paille? Vous savez d'où vient votre paille?
Moi je mets du chanvre ou du lin, et puis après je mets aussi quelquefois un peu de tonte de gazon et ça marche très bien.
Voilà, la tonte de gazon c'est ouais. Ils préfèrent, en fait, hein, les mulches.
Oui, on en reparlera, mais la paille, il faut être sûr qu'elle soit bonne, qu'il n'y ait pas eu de produit dessus, et c'est tout un cycle qu'il faut vérifier.
Absolument.
Pascal, merci beaucoup de nous avoir appelé, d'avoir ouvert cette émission, et bien sûr on continue avec vous sur France Bleu.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Peut-on cultiver la terre, nourrir nos enfants sans utiliser de pesticides? Pourquoi certains mettent-ils autant de temps à supprimer ces produits que l'on sait désormais dangereux pour la santé? Aujourd'hui, on jardine au naturel, compost, engrais bio, observation des insectes tellement utiles à la biodiversité, permaculture, des gestes d'autrefois qui reviennent en force. Et on vous attend sur France Bleu pour nous raconter votre aventure naturelle avec votre jardin, vos vignes, votre exploitation. 0810 055 056. Dites-nous comment on fait pour se passer de désherbants chimiques, par exemple. On se dit tout avec Christophe Gatineau, auteur du blog Jardin Vivant et auteur du livre Éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Et nous sommes maintenant en région parisienne avec Julien. Bonjour Julien.
Oui, bonjour Vanessa.
Vous avez un jardin et il n'y a rien de chimique dedans.
Oui, effectivement, j'ai pas un très grand jardin, j'ai 80 mètres carrés, mais dans la mesure du possible, effectivement, j'utilise aucun produit chimique. J'ai beaucoup de pucerons, beaucoup d'escargots, en fait, dans mon jardin, donc tant que possible, je trouve des petites astuces, en fait, sur Internet, notamment pour les escargots, je mets des barrières en étain, des cloches sur les salades.
Pour pas que les escargots viennent les manger.
Beaucoup de pucerons, donc je plante des lavandes au pied pour les éloigner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je traite au purin d'ortie aussi, ouais, pour éloigner les pucerons.
Excusez-moi, Julien, je vous coupe, mais je sais pas, hein, c'est très indiscret, mais vous m'avez l'air jeune.
j'ai 38 ans. Ouais.
38 ans, bah c'est jeune, 38 ans. Non mais je dis ça parce que finalement, jardiner au naturel, on a l'impression que c'est une histoire, on parlait tout à l'heure de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Comment vous, cette envie et ce besoin finalement naturel de retrouver quelque chose de plus, bah, de plus naturel, justement, ça vous est venu? C'est comment la conscience, elle vient comment?
Je trouve ça simplement naturel, quoi, de laisser la nature faire les choses et de pas forcément utiliser des produits chimiques pour traiter son jardin, quoi.
Et Internet, ça marche bien pour trouver les astuces?
Ouais, c'est très pratique. C'est très pratique.
C'est bien, Christophe Gatineau, faut vivre avec son temps aussi. On a la chance d'avoir ces outils-là aujourd'hui, autant en profiter.
Bien évidemment. Bon, même si quand même, il faut un minimum de discernement, parce que sur Internet, aujourd'hui,
on trouve de tout. Oui.
On trouve de tout, tout et n'importe quoi, surtout, en fait. Hein. Donc, j'ai envie de faire un peu la promotion de, il y a quelques blogs, il y a quelques sites, en fait, où on diffuse de l'information dite sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas du copier-coller. Aujourd'hui, beaucoup de copier-coller circulent. Nous, sur le blog, on publie deux articles par mois, deux articles sur l'agronomie, sur l'écologie sociale, mais surtout ce sont du travail original qu'on publie. Ce sont des points de vue, en fait, on délivre aucune vérité, hein, parce que de toute façon le jardinage c'est comme l'agriculture, hein, c'est une science
du
compromis.
Ça change tout le temps, en plus.
Ça change tout le temps, c'est une science du compromis, hein. On essaie toujours de faire pour le mieux, mais il est clair que Julien est dans la bonne direction, mais pour les escargots, ce que j'aurais envie de lui dire, ben ramassez-les et puis allez les mettre. Voilà, on peut les manger, hein, mais on peut aussi aller les mettre ailleurs, en fait, là où ils dérangeront pas, tout simplement. Mm-hmm. Je crois que c'est la meilleure solution.
Mais c'est bon signe qu'il y ait des pucerons, des escargots dans son jardin, c'est-à-dire qu'il est vivant, son jardin.
Ah oui, de toute façon, un jardin vivant, c'est un jardin où on coopère avec la biodiversité. Moi, je l'inciterai d'ailleurs à faire des bandes fleuries, hein. C'est qu'il va falloir, en fait, pour travailler, coopérer avec la biodiversité, où il faut aussi cultiver pour la biodiversité, c'est-à-dire attirer les insectes, attirer les pollinisateurs, attirer les araignées, il faut cultiver pour eux. Alors certes, hein, faut leur prévoir cultiver. Par exemple, il y a une plante qui est assez magique dans un jardin, elle s'appelle le bleuet, il s'appelle le coquelicot, ce sont des plantes pollinisatrices et voilà. En plus c'est joli et en plus ça va attirer d'autres bestioles que les abeilles domestiques, toute une kyrielle.
Prêt à accueillir des bestioles, Julien, alors?
Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, j'ai un composteur donc pour les escargots, j'ai une tour à coccinelles, effectivement, j'ai planté également des fleurs, oui, pour attirer les coccinelles. Donc là-dessus, oui.
C'est la petite maison dans la prairie, j'ai l'impression, chez Julien, j'adore.
L'idée de la diversité, en fait, il faut vraiment dépasser l'idée de la simple abeille ou du simple coccinelle. Les coccinelles, par exemple, il y a, je crois, entre 80 et 100 espèces de coccinelles. Il y a des coccinelles qui mangent des champignons, par exemple, qui mangent l'oïdium. C'est plutôt intéressant de les attirer, d'autres qui vont manger des larves.
Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Si je peux venir faire Laura Ingalls dans votre jardin, je m'y sentirais bien, je pense. Et puis pensez aux escargots, hein, ça se mange aussi, c'est pas mal. À bientôt, Julien.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre jardin pour vous passer des pesticides, pour avoir un jardin 100% naturel et bio? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? C'est le moment de nous rejoindre au 0810 055 056 pour nous raconter votre expérience, que vous soyez jardinier amateur ou avec une plus grande surface, je pense aux agriculteurs par exemple. On parle de jardiner différemment, de remettre les insectes au cœur du jardin et particulièrement le ver de terre. Éloge du ver de terre, c'est d'ailleurs le titre du livre de notre grand témoin, Christophe Gatineau aux éditions Flammarion. Et alors, je rappelle que c'est une émission de témoignage. On ne vient pas pour poser des questions, parce que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions à notre grand témoin. Je vous rappelle que d'ailleurs, tous les samedis et dimanches matin, vous pouvez le faire avec les jardiniers de France Bleu. C'est important. Laetitia est avec nous dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Laetitia.
Bonjour Vanessa, bonjour Christophe.
Bonjour.
Je suis ravie de voir, d'écouter une telle émission, parce que c'est très très bien de faire agir les gens sur ce qui se passe. C'est une véritable catastrophe. Effectivement, vous faites bien d'écrire un livre sur les vers de terre, parce que des vers de terre dans mon jardin, je n'en ai plus. Je risque pas de les donner à mes poulettes. Or, j'ai constaté que la terre sentait beaucoup moins bon. Elle sent parfois même mauvais, les vers de terre l'aérer. Je n'ai jamais mis, nous sommes trois sœurs, hein, artistes peintres et dans la défense de l'environnement. Je n'ai jamais mis de pesticides, nous n'en avons jamais mis. Et nous constatons de façon absolument dramatique qu'il n'y a plus de hannetons qui s'éclatent dans les pivoines, il n'y a plus de coccinelles. Nous n'avons plus d'abeilles alors que nous avions un jasmin en fleurs, elles bourdonnaient autour de notre jasmin et de la vigne lorsque les grains de raisin naissaient. Il n'y a plus de coccinelles, plus d'insectes. Et donc, également, la chaîne alimentaire étant ce qu'elle est, nous n'avons plus d'oiseaux. Nous n'avons plus d'oiseaux. Voilà. Alors, je trouve que c'est absolument dramatique.
Et comment ça s'explique, ça, Laetitia? Vous avez réussi à prendre un peu de recul pour essayer de comprendre ce qui se passait?
Je pense que, tout simplement, ce sont les pesticides. Parce qu'il y a bien sûr des personnes autour de nous qui ont des jardins, qui mettent des pesticides, et je pense que ce sont les pesticides, tous ces lobbies qui arrivent à maîtriser les politiques, qui arrivent à faire ce qu'ils veulent, et je pense que maintenant il faut que les gens réalisent, se mobilisent autour de cet intérêt, parce que les papillons, on n'en voit plus, les coccinelles, nous avions des bancs de lucioles, chez nous. On aurait dit des bancs comme des bancs de poissons, des bancs de lucioles. Quand vous voyez une petite luciole toute seule dans la campagne, c'est le grand maximum. Au moment de la floraison des oliviers, c'était rempli de lucioles. Tout ça disparaît. Et quand on dit qu'il y a 80% des insectes qui disparaissent, oui, c'est vrai.
Christophe Gatineau, comment on peut essayer d'expliquer ce qui se passe là? Est-ce que Laetitia a vu bon, c'est-à-dire autour?
C'est probablement une des raisons, une des causes en fait. Mais voilà, je voulais juste vous poser une question. Revenons à vos vers de terre en fait, dans votre jardin. Vous aviez avant des vers de terre et maintenant vous n'avez plus de vers de terre.
Non, j'en ai plus.
Comment vous les avez nourris vos vers de terre?
Bien écoutez, mon jardin étant bio, puisqu'il n'y a rien, je pensais que la terre était... Bon, en plus, elle est renouvelée par les plantes, par
J'entends ce que vous dites. En fait, souvent, il y a un amalgame. Hein, je dirais, vous n'êtes pas responsable, mais c'est l'information qui circule ainsi. C'est-à-dire qu'on a...
l'impression que c'est naturel.
C'est-à-dire qu'on a seul. Voilà, on a l'impression que les vers de terre, que la biodiversité se nourrit d'amour et d'eau fraîche. C'est important, hein, l'amour et l'eau fraîche, mais c'est pas suffisant, finalement. Quoi, voilà. Et on oubliait d'enseigner qu'en fait, qu'il fallait nourrir la biodiversité. C'est-à-dire nourrir la biodiversité, comme je disais tout à l'heure, c'est nourrir vos vers de terre. Alors, prenons le cas de vos lombrics terrestres. En fait, je suis désolé de vous dire qu'ils sont, bien sûr, c'est pas de votre faute, mais ils sont morts de faim, finalement, s'ils n'avaient pas assez à manger. Le peu de dans un jardin, en fait, prenons le cas d'une carotte. Voilà. Vous avez très peu de déchets, hein, hormis les fans. En fait, la racine, là où est concentré le sucre, d'ailleurs, il aime le ver de terre, une carotte pourrie, en fait, hein, une fois qu'il peut la digérer. En fait, on va consommer. C'est-à-dire que, tous ces, là où il y a des nutriments, en fait, on va les prélever. On prélève beaucoup de choses, très peu de résidus de récolte dans un jardin. Donc, il est extrêmement important entre les cultures, soit de cultiver ce qu'on appelle des engrais verts, c'est-à-dire que vous allez cultiver des plantes. Admettons, vous allez pouvoir cultiver de la moutarde. Il aime la moutarde. Vous allez pouvoir cultiver, ça me vient pas à l'idée. j'ai envie de vous dire le.
Dans du l'oignon, moi, tout à l'heure.
Oui, de l'oignon. Enfin, c'est peut-être aller lui couper des morceaux d'oignon sur le sol. C'est pas la solution. Mais par contre, tous vos déchets de cuisine, plutôt que de faire un compost, parce que vous savez qu'on peut valoriser la matière organique vos déchets, vous pouvez les valoriser soit sous forme de compost, c'est-à-dire avec des vers de compost qui vivent à l'extérieur de la terre, soit mettre directement vos déchets sur le sol, et les vers de terre viendront s'en charger, la vers de terre et toutes les bestioles qui fabriquent la fertilité. Voilà.
Ça vaut le coup d'essayer, Laetitia, avant de s'alarmer, peut-être de redonner à manger à vos vers de terre qui après reviendront, je l'espère. Merci d'avoir été avec nous, Laetitia. Vous aussi, venez nous rejoindre si vous avez décidé de faire différemment dans votre jardin, de jardiner naturellement ou de produire naturellement. On peut donner aussi la parole aux agriculteurs. 0810 055 056.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
On n'est pas obligé d'utiliser des pesticides, on peut aussi jardiner et produire naturellement. Ça veut dire revenir à une agriculture raisonnée, naturelle, réapprendre des gestes, des insectes oubliés. C'est aussi une forme d'engagement et on en parle avec vous aujourd'hui sur France Bleu au 0810 055 056 avec l'agronome Christophe Gatineau, auteur du livre « Éloge du ver de terre », c'est aux éditions Flammarion. Et nous sommes maintenant à Clermont-Ferrand avec Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes paysan et vous insistez sur le mot paysan.
Oui, je suis paysan. C'est important. Fier de l'être, très fier d'être paysan. Oui, je ne suis pas exploitant agricole, je n'exploite pas la terre, je travaille avec elle. Et c'est vraiment important. Et ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant que je suis paysan.
Et je travaille depuis plus de 20 ans sans aucune molécule chimique. Et quand on entend dire que c'est compliqué, en plus je travaille des productions qui sont très gourmandes en produits chimiques normalement, qui sont donc les arbres fruitiers et la vigne.
Ah oui.
Donc par exemple cette année, on a eu beaucoup d'humidité, on a eu beaucoup de chaleur. Moi, je vois mes collègues, on fait entre 7 et 12 traitements. Moi, cette année, j'ai fait 2 traitements et des traitements à base de plantes uniquement. Et j'ai des vignes qui sont superbes.
Et ça marche donc ?
Et ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Oui. J'en vis. Alors, vous savez que le monde paysan, actuellement, c'est un peu compliqué. On essaye de remplir le frigo et c'est très compliqué. J'arrive à en vivre. Je ne roule pas sur l'or, mais j'arrive à en vivre.
Mais ils vous disent quoi, vos collègues qui sont en agriculture traditionnelle et qui polluent aussi, il faut le dire, hein, même si parfois ils aimeraient bien se dire « Ah, j'aimerais bien essayer », mais c'est compliqué de changer ce schéma qui est là depuis quand même des années. Ils voient bien les résultats chez vous ?
Oui, ils voient les résultats, mais je pense que c'est pas une question de résultats, c'est une question de peur. C'est une question de peur, pourquoi ? Parce qu'on leur fait croire qu'il va y avoir, effectivement, quand on va faire des conversions, on va avoir des rendements qui vont baisser les 2-3 premières années, mais au bout du 4e et 5e année, déjà, on a des rendements qui reviennent à la normale, voire après, au bout de 7 ou 8 années, on retrouve des rendements supérieurs. Mais ce qui leur fait, c'est vraiment la peur de ce que leur disent les techniciens des chambres d'agriculture, les techniciens tout court, les marchands de produits. C'est surtout cette peur qu'ils ont de pas passer le cap. Une agriculture saine actuellement est totalement viable. Moi, je dirais que le plus gros des problèmes actuellement, c'est pas d'avoir des maladies, c'est pas d'avoir des insectes. Le plus gros des problèmes chez nous, c'est l'urbanisation qui est en train de détruire les terres agricoles. Mais l'agriculture naturelle est possible. Alors moi, je fais du jus de fruits, je fais du vin, je ramasse des plantes sauvages pour les transformer, mais aussi pour en faire des tisanes pour mes vignes, pour mes vergers et pour mes clients. Et je travaille finalement mes vignes et mes vergers comme on peut travailler pour donner une tisane à une personne qui a un coup de fatigue, qui a un coup de moins bien, qui a une mal au ventre, qui a des problèmes de circulation sanguine. Je travaille exactement mon patrimoine végétal comme on peut travailler pour un être humain.
Est-ce que ça veut dire, Christophe Gassineau, que là, Benoît, il nourrit la biodiversité ? Parce que moi, vraiment, je vais retenir ça de l'émission.
Je ne sais pas. Vous nourrissez la biodiversité ? Comment vous nourrissez
vos tisanes,
sols, par exemple ?
Alors déjà les sols, je fais que des griffages, je n'apporte que de l'air déjà. Après, je fais des cultures comme par exemple le chanvre, le sativa, qui me permettent d'amener des oméga-3, des oméga-6. Après, je fais certains purins, mais sur le sol, je dirais que j'agis au strict minimum, c'est-à-dire que j'essaye de... Alors j'ai fait des bêtises les premières années.
Vous travaillez avec des couverts, je suppose, vous travaillez avec des couverts
Couverts végétaux intégrales, que ce soit sous les cèpes et tout. Effectivement, j'ai des poules qui vont me faire le travail sous les vergers, évidemment, pour certains insectes, tout ça. Je vais apporter une ou deux fois, tous les 3-4 ans, des fientes de poules ou du cheval, mais vraiment, je sais d'où il vient et tout. Donc, le minimum d'intervention, parce que je pense que la plante...
Vous êtes dans un milieu... Excusez-moi, vous êtes dans un milieu protégé ?
Non, pas spécialement. Je suis dans la plaine de la Limagne.
Oui,
c'est
oui,
la grande plaine de la Limagne céréalière. Je suis sur un volcan, donc il y a peu de céréales.
Oui.
Malgré tout, je suis pas. Je suis protégé parce que justement, j'ai beaucoup de pavillons autour de moi.
Et vous faites, on fait du vin en fait. J'ignorais qu'on faisait du vin dans le Puy de Dôme.
Oui, on fait un très très bon vin. Il y a que les Auvergnats qui le savent pas forcément, mais si on fait un très très bon vin qui s'appelle
la légendaire, non?
Ah, oui, alors, oui, la légendaire, ça c'est un produit commercial, mais
il y a des gens qui...
Non, mais c'est très bien. Moi, vous savez, moi, il n'y a pas de bons et de méchants paysans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons bio et les mauvais chimiques. Il y a des paysans qui essayent simplement de travailler, de remplir le frigo pour arriver à... On produit de l'alimentation, mais la moitié des paysans actuellement n'arrivent pas à se nourrir. Donc, il n'y a pas de bons et de méchants. Il y a simplement des hommes et des femmes qui essayent de s'en sortir. Et franchement, l'agriculture saine est un moyen de s'en sortir à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on va pas travailler sur des 1000 vaches.
Merci. Benoît, je suis obligée de vous couper malheureusement. C'est pourtant passionnant de discuter avec vous. J'espère que vous reviendrez dans une prochaine émission. Et c'est important aussi de le voir à plus grande échelle et notamment pour l'agriculture. Merci Benoît d'avoir été avec nous. Vous aussi, vous venez nous rejoindre. Il reste un tout petit quart d'heure, donc on se dépêche.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Votre jardin est vivant, regardez-le de plus près et vous verrez, il y a bien sûr vos légumes, vos fruits, vos plantes, mais aussi des fleurs, des animaux, des insectes et pourquoi pas même le ver de terre. Puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, il est au cœur de nos discussions avec le livre de notre grand témoin Christophe Gattineau, Éloge du ver de terre chez Flammarion. Racontez-nous comment vous êtes passé à une culture plus naturelle, comment vous nourrissez votre écosystème, puisque c'est vraiment de ça dont on parle dans le livre. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 et Mathieu est avec nous dans le Loiret. Bonjour Mathieu.
Bonjour Anessa.
Vous êtes fils d'agriculteur.
Oui, je n'ai pas pu continuer pour des raisons économiques. Et mon père travaillait déjà, comme disait l'auditeur tout à l'heure, paysan. Effectivement, on était en polyculture élevage et en autosuffisance. Voilà.
Et vous avez décidé de reproduire un peu la même chose dans votre propre jardin aujourd'hui.
Voilà, voilà. Un peu de pelouse, un peu de jardin, quelques poules, quelques ruches. Et on essaye de rééquilibrer tout ça, oui.
Et ça marche bien ?
En pleine ville, oui, oui, et ça marche
bien.
Ah
oui, en pleine ville, en plus.
Je suis content. Donc, voilà, après, c'est de l'observation, hein. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, hein. C'est beaucoup d'observation. Et la façon de travailler, mécanique ou pas mécanique, moi, je m'aperçois que le motoculteur abîme beaucoup. Donc, une fois sur deux, une année sur l'autre, selon ce que je veux planter, je travaille beaucoup avec motoculteur pour les pommes de terre et les carottes pour ameublir la terre. Mais après, c'est uniquement à la main. Et c'est pareil, le fait de devoir bêcher, et ben en fait c'est presque une erreur parce qu'on travaille toujours sur une même surface et on détruit tout ce qu'il y a sur les 20 premiers centimètres. Et donc il faut adopter, vous savez, la nouvelle fourche là où on pivote simplement sur l'avant pour aérer la terre. Et donc les légumes s'en ressentent aussi derrière.
Ah, parce qu'en plus, j'allais dire, on peut faire mal au ver de terre en plus en faisant ça. Mais non, moi je suis hyper ver de terre. Hein.
Oui, en fait, vous utilisez le motoculteur, vous utilisez la fraise, je suppose.
Oui, 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 voilà.
Oui, alors voilà, voilà. Je crois que il faut arriver à bannir cet outil. C'est-à-dire que tous les outils qui tournent, en fait, c'est vraiment vaut mieux conserver la bêche, en fait, ou en fait dans un terrain qui est bêché. Bizarrement, ça ennuie très peu les vers de terre. Et c'était Darwin qui l'avait remarqué le premier et dans son dernier ouvrage, en fait, hein, qui est vraiment une faut savoir que Darwin a pendant 40 ans observé les vers de terre, il était fasciné par cet animal et il s'étonnait que dans les jardins bêchés, il y avait des vers de terre. En fait, ce que ne supporte pas la vie du sol, en particulier, c'est tous les outils qui tournent sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand le vers de terre se trouve pris dans les mailles du filet, en fait, il est découpé en morceaux. Alors moi, je vous dis ça, mais j'ai fait pendant des années, bien sûr, l'erreur. Hein, voilà, parce que...
Et un vers de terre coupé en morceaux, ça fait pas trois vers de terre ou deux vers de terre. Ça aussi, vous l'expliquez bien.
Oui, c'est ça. Ça fait partie des idées reçues, parce que comme on pense que le ver de terre c'est pas grand chose, hein, que c'est une chose, alors qu'on oublie en fait que c'est un animal à part entière. Quand je vous parle du ver de terre, bien évidemment c'est le lombric terrestre, c'est cet animal dont tout le monde ignore qu'il mange de la viande par exemple. Voilà. Et donc je conseille pas quand même de nourrir vos vers de terre à la viande. Bon, même si...
Mais
il peut, hein, bien évidemment. Mais oui. Alors on peut se passer du motoculteur en fin de compte de la bineuse, tout simplement. Bien sûr, vous citez la fourche bêche en fin de compte et ce qu'on appelle la grelinette, c'est très bien. Mais essayez de couvrir pendant l'hiver le sol avec du foin et vous verrez qu'en fin de compte pendant tout l'hiver les vers de terre vont travailler, vont aérer la terre et elle sera meuble au printemps.
Et Mathieu, on fait pousser quoi chez vous ? Vous parliez de légumes, mais il y a quoi d'autre ?
Des ruches pour...
ouais, donc déjà, vous faites aussi.
Voilà, j'ai repris un rucher il y a une dizaine d'années maintenant. Bon, on a un nouveau prédateur qui est là depuis quelques années, qui nous fait beaucoup de mal. Mais effectivement, la pollinisation est très importante ça aussi pour les fruits et légumes. Hein. On s'en aperçoit. J'entendais dire une auditrice tout à l'heure, les oiseaux, c'est incroyable. Nous, en 50 ans, sur les 5 dernières années, c'est la fréquence des mésanges. L'hiver, on n'en a plus. Très peu, c'est incroyable, comme à la vitesse où ça peut aller, ouais, effectivement. Ouais.
Et on entend beaucoup de gens aussi qui disent « Ah tiens, j'entends les oiseaux chez toi, donc tu n'es pas à la campagne ». Ça fait peur d'ailleurs quand on entend ça. Mathieu, merci beaucoup pour votre témoignage, ça passe très très vite. Alors on va essayer d'avoir un maximum de témoignages. Venez nous rejoindre vous aussi, la dernière partie dont ce dit tout arrive dans un instant. 0810 055 056, on parle de jardiner naturellement aujourd'hui.
Des moments de vie uniques. Des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Jardiner au naturel et donner à manger à la biodiversité. Il faut nourrir cette biodiversité, c'est ce qu'on découvre et ce qu'on apprend dans votre livre, Christophe Gatineau, Éloge du ver de terre, notre futur dépend de son avenir chez Flammarion. Vous n'êtes pas tendre avec l'agroalimentaire, avec les supermarchés, avec les multinationales et j'ai envie de dire c'est normal.
Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est compris en mal agriculture, en fait. Et c'est vrai que ce sont, aujourd'hui, la plupart des gens considèrent que leur nourriture se trouve dans les supermarchés, chez Leclerc, Auchan. Les supermarchés ne sont qu'un intermédiaire, en fait, hein, qui se sucrent même au passage. Je veux dire, leur nourriture, elle vient des sols. Voilà, la nourriture vient des sols pour 95% et le reste, elle vient des océans. Et comme les sols sont dans le même état que les océans, ça pose question. Alors pourquoi parler du ver de terre ? Ben parce que dans un sol cultivé, l'animal qui règne en maître, c'est le lombric terrestre en fait. Alors quand on dit lombric terrestre, faut pas s'attacher simplement à l'animal. L'animal, il est le témoin de la bonne santé des sols et il est la colonne vertébrale des sols vivants. Je veux dire, si vous me permettez de rajouter, on a parlé de pesticides. En fait, moi, c'était ma spécialité, les pesticides. J'étais formé, en fait, à la protection des cultures et j'étais formé à la destruction de la biodiversité, en fait. Il faut quand même savoir que pendant des années, même encore, on forme des techniciens à la destruction de la biodiversité. Et quand on utilise un pesticide naturel ou chimique ou organique ou minéral, prenons par exemple l'exemple de la bouillie bordelaise qui apparaît.
Tout le monde en parle.
Voilà. Il faut savoir que au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on considérait le ver de terre, notamment le lombric terrestre, comme un nuisible des cultures. On pensait qu'il mangeait les racines des plantes. Et donc il y avait tout un tas de recettes pour le détruire. Et parmi ces recettes, il y avait ce qu'on appelle le sulfate de cuivre qui est la bouillie bordelaise. Donc aujourd'hui, quand on agriculture bio ou dans son jardin, on va cultiver des tomates. Et on va être obligé, entre guillemets, hein, bien entendu, par facilité, évidemment, utiliser le bleu, ce qu'on appelle le bleu, la bouillie bordelaise, mais on intoxique son sol. Alors, si on le fait une fois, je veux dire, tous les 10 ans, c'est pas grave, le seul problème, c'est quand ça devient systématique. Donc, il faut vraiment proscrire tous les pesticides, parce que un pesticide, même d'origine naturelle, qui pour tuer les pucerons, par exemple, il faut savoir qu'il ne tue pas les pucerons, mais toute la biodiversité, même ceux qui mangent les pucerons.
C'est très intéressant, votre livre, et on parle du ver de terre, le ver de terre nous parle, on parle de la nature, on parle des sols, on parle de l'industrie agroalimentaire, des terres, de l'agriculture. On a une étendue de sujet.
Vision globale.
Vision globale, voilà, merci, voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Et je ne peux que vous le conseiller, c'est le livre du futur, mais à lire maintenant, si on veut que futur soit bien. Ouais. Éloge du ver de terre de Christophe Gatineau, c'est aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été notre grand témoin.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci à tous pour vos témoignages en direct sur France Bleu. Si vous avez raté le début de cette émission, vous dites mince, alors c'était super intéressant aujourd'hui, on parlait des pesticides, mince, pourquoi j'étais pas là? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr réécouter l'émission en podcast sur notre site francebleu.fr. Tous les jours, un nouveau thème, tous les jours, c'est votre histoire. Si c'était pas le cas aujourd'hui, ça sera peut-être le cas demain. Demain, on parlera d'amour et de rencontres dans On se dit tout, parce que souvent, il y a des histoires assez rigolotes. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est la question que je vous pose. Ça peut être un accident, on fait le constat, hop, on tombe amoureux. Ça peut être sur un site de rencontre, ça c'est très moderne aussi, mais est-ce que c'est facile d'en parler? Racontez-nous vos rencontres, on parlera d'amour, on va rire beaucoup, je l'espère, en votre compagnie demain sur France Bleu, à retrouver également sur francebleu.fr pour nous suivre en podcast également.